RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Les évêques de France sont dans la tourmente. 11 évêques français sont ou ont été mis en cause, notamment pour des violences sexuelles ou des faits de non-dénonciation, dont le cardinal Ricard, l'ancien archevêque de Bordeaux. Les révélations faites la semaine dernière lors de l'assemblée plénière de l'épiscopat à Lourdes ont provoqué stupeur et colère. Comment comprendre la révélation soudaine de ces affaires? Quelle réforme faut-il mener pour plus de justice et de transparence? On en parle ce matin dans Je pense donc j'agis. Et notez que dans la seconde partie de l'émission, malgré ces affaires, on vous présentera des initiatives souvent portées par des laïcs engagés qui fleurissent dans l'église ou plutôt en dehors de l'église. Exemple à 10h avec le congrès mission et le café le Dorothy. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Comment avez-vous réagi à ces nouvelles révélations? Est-ce que vous avez encore confiance en l'église et peut-on faire confiance aux évêques? Qu'est-ce qui vous fait tenir dans votre foi et dans l'Église? Et pourquoi et comment gardez-vous cette foi malgré ces affaires? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec Pauline de Torsiac en ce lundi matin. Bonjour Pauline.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. L'image de l'Église de France est, vous l'avez dit, à nouveau ternie par une succession de révélations. Après l'affaire Santé mi-octobre, c'est effectivement l'archevêque émérite de Bordeaux, le cardinal Ricard, qui a admis la semaine dernière avoir commis des actes répréhensibles il y a 35 ans envers une mineure de 14 ans. Des aveux qui ont fait l'effet d'une onde de choc parmi les évêques réunis à Lourdes, les clercs, les fidèles. Colère, stupéfaction, sentiment de trahison un an après le rapport de la SIAZ. L'agenda de ces révélations interpelle. De quelle manière justement ces révélations impactent les victimes, les fidèles de tous bords, les clercs? Quel dysfonctionnement mettent-elles en lumière? Quelles actions, réformes faut-il mener pour restaurer la confiance? Eh bien, on en parle ce matin, Melchior, avec nos invités.
Oui, nos trois invités d'ailleurs qui sont avec nous jusqu'à 10h.
Monseigneur François Touvet, bonjour. Alors, on vous entend pas.
Bonjour à vous tous.
Ça y est,
on
vous
ne m'entend pas.
Parfait. C'est tout bon.
C'est parfait. Vous êtes l'évêque de Châlons-en-Champagne. Vous avez vécu de l'intérieur ces annonces à Lourdes lors de l'assemblée plénière. Quelle a été votre réaction? Peut-être vous étiez au courant, vous aviez eu vent de ces affaires?
Non. Mais ma réaction, ça a été d'être, je le suis encore, complètement sonné. Parce que, bien sûr, nous, les évêques, on a entendu cela, on a reçu l'information, surtout concernant le cardinal Ricard, alors que nous étions en train de travailler pour essayer d'analyser les dysfonctionnements qu'il fallait repérer dans ce qu'on appelle l'affaire Sentier. Et donc, ça a été la foudre nous est tombée dessus, je dirais. Et en même temps, je crois que je partage, je l'ai exprimé à mes fidèles dans le diocèse de Châlons. J'ai partagé cela avec les prêtres et les diacres hier soir lors d'une réunion toute simple et informelle. J'ai partagé avec une personne victime aussi, avec laquelle je suis en contact. Le titre de notre message final, bouleversé et résolu. Et il me revient toujours ces paroles de saint Paul dans la deuxième aux Corinthiens au chapitre 4 où il dit nous sommes dans la détresse sans être angoissés, déconcertés mais pas désemparés, etc. C'est le contexte bien sûr des persécutions, mais nous portons dans notre corps la mort de Jésus afin que la vie de Jésus elle aussi soit manifestée. Il me semble que c'est vraiment ma grande espérance. Je suis bouleversé, je comprends l'incompréhension, je comprends la colère, je la partage, je l'exprime. Et en même temps, ma détermination comme évêque, comme pasteur, responsable, parce que j'aime l'Église, parce que j'ai donné toute ma vie pour l'annonce de l'Évangile, et je veux vraiment m'y consacrer de toutes mes forces.
Et on reparlera de cette lettre que vous avez publiée, tous les évêques, à l'issue de cette assemblée plénière bouleversée et résolue. Marie Jotil, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes théologienne, vous êtes médecin, professeur d'éthique à la faculté de théologie de Strasbourg. Vous avez écrit « Abus sexuels, écouter, enquêter, prévenir ». C'est aux éditions des presses universitaires de Strasbourg. Après le travail de la CIAZ, le rapport de la CIAZ il y a un an, les révélations successives à propos de Mgr Santier, et puis les aveux la semaine dernière du cardinal Ricard jettent le discrédit sur l'Église. Vous, quelle a été votre réaction voilà, notamment après les travaux que vous avez pu mener justement sur cette lutte contre les abus sexuels dans l'Église.
Ma première réaction a été aussi, comme celle de François Touvé, le choc. J'avais entendu très peu de temps auparavant les faits par rapport au cardinal Ricard, mais j'avoue que j'étais en train de me promener à Lourdes avec Bertrand Calichon, quand j'ai eu par téléphone l'information que Mgr Éric de Moulin-Beaufort était le président de la conférence des évêques, était en train de dire qu'il y avait 11 évêques qui étaient concernés par des abus divers. Je crois qu'il faut bien préciser des abus divers, pour certains pour de la couverture, d'autres pour des choses plus de l'ordre des agressions sexuelles. Donc ma première réaction a été vraiment un choc, surtout que nous ne maîtrisions pas du tout le type d'information, le type d'abus qui était en cause. Ma deuxième réaction immédiatement après, c'est quand je réfléchis à ça par rapport à tous les travaux que j'ai pu mener, c'est que ce n'est pas surprenant. Et de ce point de vue-là, on a fait un pas en avant, je crois. Ce n'est pas surprenant parce que quand 4 ou 5% des clercs sont concernés par des abus, pourquoi les évêques, dont Éric de Moulin-Beaufort a rappelé qu'ils n'étaient pas infaillibles, seraient-ils épargnés? Donc, on sait très bien, et il y aura d'autres cas qui sont déjà dans toute, je dis les rumeurs, mais c'est plus que des rumeurs, sur le point de parler ou de point d'être signalé, etc. Donc, ça, c'est un point qui n'est pas du tout étonnant. Ensuite, je crois que malgré tout, même si ça a été un petit peu quelque peu maladroit, parce que c'est peut-être la première fois, mais je salue quand même cette information d'Éric de Moulin-Beaufort qui a organisé cette conférence de presse plutôt que, je dirais, de lancer dans les tuyaux le communiqué du cardinal Ricard. Donc, il s'est donné du mal, il a essayé de donner l'information au moment où il la recevait. Et je crois que ça, c'est à saluer. Je crois qu'on tire aussi des leçons de ce qui a été quelque peu maladroit quand il n'a pas précisé le type de victime. Il a repris un petit peu dans son discours final. Mais je crois que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Parce que les révélations d'abus ne sont pas terminées.
Les révélations d'abus ne sont pas terminées. Alix Huon, bonjour. Vous m'entendez? Vous nous entendez?
Oui.
Ouais, c'est parfait. Vous êtes membre du collectif Agir pour notre Église. C'est un collectif qui est composé principalement de laïcs, hein. Votre mouvement est né, justement, après le rapport de la CIAZ pour faire de l'Église une maison sûre. Et votre collectif rassemble des catholiques de tous bords, on peut dire ça comme ça?
Oui, vraiment, on s'est monté quelques temps après la publication du rapport de la CIAZ l'an dernier, avec vraiment comme objectif de faire de la médiation et de permettre aussi la réception de ce rapport dans l'ensemble des fidèles, parce que on a vu, et ça a été courageusement reconnu par les évêques l'an dernier, que le problème des abus était un problème systémique et donc qu'il concernait l'ensemble de l'Église. Et donc c'est important aussi que, au-delà des décisions, bien sûr, qui doivent être prises par les prêtres et par les évêques, que les laïcs puissent aussi s'emparer de la question, mieux comprendre et mieux prévenir. Et dans ce collectif, on a vraiment l'ensemble des sensibilités de l'Église. Et c'est très important pour nous. On l'a vu dans les mobilisations qu'on a pu accompagner et proposer un petit peu avant.
En amont de l'Assemblée plénière, justement. Voilà, c'était juste en écho à l'affaire Santier, d'ailleurs.
Exactement. C'était vraiment pour interpeller chacun de nos évêques et leur faire passer, disons, plusieurs messages. Le premier, qui était que la communication, que cette culture du silence ne pouvait plus durer, qu'on l'a bien vu, il faut toujours penser, bien sûr, aux victimes. aux victimes qui auraient pu ne pas se déclarer. Je pense que ça a été finalement là où il y a eu le plus de colère hein, suite aux révélations sur Michel Sentier. C'est qu'il a suffi que l'affaire sorte dans la presse pour que de nouvelles victimes se déclarent et voilà qui ont été seules trop longtemps et qui auraient pu le rester encore si ça n'était pas sorti dans la presse. Donc c'est vraiment toujours aux victimes qu'on doit penser d'abord. Mais nous voilà, ce qu'on voulait exprimer, c'était d'une part que l'ensemble du corps ecclésial était une victime collatérale, évidemment pas du tout au même niveau que les victimes et qui doivent toujours être notre première pensée et l'objectif et le but ultime de notre action. C'est vraiment important. On l'a vu dans ces mobilisations. On a reconnu le visage de toute l'Église. Il y a eu des prises de parole vraiment de l'ensemble des sensibilités présentes dans l'Église, bien au-delà des clivages habituels.
C'est assez nouveau, presque, j'allais dire.
Je pense que c'est assez inédit. En même temps, la question évidemment des abus dans l'Église et de cette crise de confiance qu'on a dans l'institution, on a pu la constater chez tout le monde. Alors évidemment, toutes les sensibilités ne vont pas mettre la même explication derrière les causes, ne vont pas imaginer les mêmes solutions. Mais en tout cas, c'est assez évident que pour l'ensemble des catholiques, avoir une église qui n'est pas une maison sûre, c'est quelque chose qui est complètement inacceptable. Et c'est vraiment l'objectif de notre collectif et notamment de cette tribune qu'on a publiée pendant l'Assemblée Générale qui était intitulée « Frères évêques, laissez-nous vous aider ».
Et la première à nous rejoindre au 04 72 38 20 23, c'est vous, Edith. Bonjour, Edith.
Bonjour, Melchior. Bonjour et merci à vous et à vos invités, en particulier à Marie Jotil. Voilà, je vais redire un petit peu, je crois, ce qui vient d'être exprimé, avec quoi je suis très, très d'accord. Bon, il s'agit d'abord d'une mentalité, d'une culture qui imprègne d'abord la curie. Ensuite les clercs et au fond monsieur tout le monde. Nous sommes tous à la fois victimes et responsables. Et cette mentalité-là est tragique, voilà. Et puis le nœud du problème, c'est certainement, je pense, effectivement le caractère structurel et systémique de ces dysfonctionnements. Et je pensais à ce qu'avait dit Jean-Paul II concernant les structures de péché dans le monde. Et je pense qu'il y a effectivement là une structure de péché au cœur même de l'Église. C'est terrible. Et je voudrais dire aussi que je comprends ô combien que beaucoup de personnes quittent à bas bruit l'Église actuellement. On peut le comprendre, mais ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est Jésus-Christ. L'Église, ça n'est qu'une expression, entre guillemets, ou une structure au service de l'évangélisation, mais ça n'est pas le cœur de l'Évangile. Et ça n'a rien à voir avec la foi. Voilà, je pense, pour beaucoup de personnes. Voilà, mais je voudrais dire aussi que je suis terriblement inquiète et navrée parce que toutes ces affaires horribles discréditent complètement l'Église qui était déjà un petit peu mal vue dans la société en général et ça c'est tragique.
Merci
voilà.
Beaucoup Edith pour cette
espérance malgré tout, Noël arrive.
Merci beaucoup Edith pour votre appel dans Je pense donc que j'agis. Marie Jotil, je vous fais réagir, Edith qui nous dit la foi n'a rien à voir avec une colère et une déception.
Eh bien, heureusement, d'une certaine manière, parce que c'est cette foi qui nous permet de tenir, c'est cette foi qui nous permet de savoir et de croire que le Christ reste dans la barque et qui nous permet de marcher ensemble selon le processus synodal pour essayer, j'ai envie de dire, de faire pression, entre guillemets, je mets des guillemets, mais je crois que c'est extrêmement important ce que vient de dire aussi Alex Huon par rapport au collectif Agir pour notre Église, au sens où les baptisés, il y a d'abord une égalité baptismale, et à partir de cette égalité baptismale, les laïcs, tous les baptisés, sont en droit d'exiger de façon responsable que la vérité se fasse, qu'il y ait une transparence responsable, pas une transparence à tout prix. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc la foi nous guide aussi à ce niveau-là pour essayer d'aller de l'avant, parce que quand même, dans l'affaire Sentier, quand j'y repense, ce sont bien les médias qui ont contribué à ce que l'affaire soit révélée. Et je dirais à travers les médias, et là, en l'occurrence, c'est quand même très intéressant, c'était les médias chrétiens. Hein, c'était Famille Chrétienne et Goliath. C'est pas rien que ça émane de ces deux médias-là. Donc, vraiment, oui, c'est vrai, il faut que nous gardions la foi, que nous suivions le Christ. La structure est importante parce que c'est l'Église qui nous transmet l'Évangile. Et ça, c'est absolument fondamental. Mais en même temps, cet Évangile nous accule à suivre le Christ et il faut aller de l'avant, oui.
Alors, on parlait des dysfonctionnements. Vous parliez de cette culture du silence. Je lisais une interview de Monseigneur Blanchet ce week-end, le successeur de Monseigneur Santi à Créteil. Il disait « La question des évêques mis en cause a été un angle mort de notre assemblée de novembre 2021, comme du rapport de la SIAZ. Vous êtes d'accord avec ça, Monseigneur Touvet ?»
Ben, d'une certaine façon, oui. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais il me semble que il y a un travail très important qui a été réalisé avec la commande de cette faite à la commission présidée par Monsieur Sauvé. Le rapport de la SIAZ a été un événement, à la fois un grand choc aussi, mais en même temps l'occasion d'un vrai sursaut, je crois, d'une prise de conscience, pas seulement chez les évêques, mais dans tout le peuple de Dieu et même dans la société tout entière, où cette démarche a été vraiment saluée et accueillie comme quelque chose d'assez exemplaire. Donc le travail est en route, si je puis dire, mais de fait il y a des aspects certainement qui ont dû échapper, qui ont échappé à cette prise de conscience, et c'est ce à quoi nous nous sommes attelés la semaine dernière à Lourdes, c'est d'essayer vraiment de repérer
les dysfonctionnements.
Et c'est vrai, on n'a pas évoqué l'année dernière la mise en cause d'un évêque. Ça n'a pas été dit, ça n'a pas été exprimé. On a parlé de la mise en cause de diacres ou de prêtres et aussi de fidèles laïcs dans des proportions qu'on n'imaginait pas non plus.
Et vous l'expliquez comment ?
Mais pas les évêques. Comme si on était infaillibles, comme si on était des surhommes au-dessus de la mêlée.
Une sorte d'impunité peut-être aussi
Alors ça,
c'est ce qui peut être ressenti aujourd'hui.
C'est ce qui peut être ressenti aujourd'hui si la façon dont l'affaire Santi a été traitée laisse l'impression qu'il y aurait un régime de faveur. Voilà. Or, ça n'est pas le cas. Mais il y a des dysfonctionnements sur lesquels nous avons essayé de mettre des mots. Il y a eu des échanges, je dirais, les conversations entre tous les évêques avec le nonce apostolique qui était présent. Et nous avions un official aussi du dicastère pour la doctrine de la foi qui travaille à la section disciplinaire et qui étudie tous ces dossiers. C'est abominable quand même. Eh bien, nous avons essayé d'analyser ce qui s'est passé, non seulement dans la chronologie, mais dans l'articulation entre les différentes prises de décision, l'initiative pour lancer telle ou telle démarche, telle ou telle procédure, telle ou telle enquête. Et de fait, il y a des dysfonctionnements, il y a des lenteurs, il y a des partages de responsabilités qui doivent être élucidés, approfondis.
Une information qui circule plus ou moins bien.
Et l'information, parce que le peuple de Dieu n'a pas été informé. Me semble-t-il, dans tout ce que j'ai essayé de comprendre, à Coutances, à Créteil, et je n'accuse pas moi mes frères évêques, j'ai mesuré aussi la grande difficulté dans laquelle ils se sont trouvés, eux-mêmes, à porter très seuls, c'est aussi un autre problème, c'est que nous voulons élargir le cercle de réflexion, de prise de conscience, d'accompagnement des procédures, pour savoir comment gérer tout cela, y compris jusque dans la communication, pour que... Effectivement, il y a une transparence, j'ai aimé l'expression employée par Marie Jotil tout à l'heure, une transparence mais responsable, on peut pas tout dire non plus. D'ailleurs, dans la justice de française, on ne dit pas forcément tout de suite, parce qu'il faut aussi respecter les personnes mises en cause, les personnes victimes. Donc il y a tous ces processus qu'il nous faut vraiment reprendre, mais de fait, il y a une forme de déception, d'incompréhension, on se dit, mais tout ça... Le rapport de la SIAZ, et rien n'aurait changé. Alors si, Il y a beaucoup de choses déjà qui ont changé et qui sont encore en cours d'analyse et de travail. Nous avons rencontré nos groupes de travail qui rendront leurs conclusions au mois de mars. Nous y avons contribué, nous avons participé à leur travail la semaine dernière. Mais il y a beaucoup de choses qui avancent, des décisions qui ont été prises pour l'accompagnement des personnes victimes, l'indemnisation, les questions de procédure. Donc voilà, le travail continue, tout se fait pas en un clin d'œil, même si nous aimerions que ce soit résolu beaucoup plus franchement, de façon beaucoup plus tranchée.
Marie Jotil, vous vouliez réagir?
Oui, je pense que effectivement les évêques, ça a été un angle mort l'année dernière, comme vous venez de le dire. Je pense que lié à cet angle mort, il y a le fait des adultes dans les abus de pouvoir. Qui ne sont pas non plus pris en compte. Or, c'est un autre angle mort qui, jusqu'à présent, dans l'Église, n'a pas fait l'objet de la moindre investigation. Or, dans la pratique, on sait très bien que les abus sexuels commencent d'abord par des abus de pouvoir, des abus spirituels, des abus psychologiques. Et je crois que les derniers cas qui viennent de nous être révélés, les 11 évêques d'une certaine manière, eh bien, ils ont comme point commun la question des abus de pouvoir au sens large, spirituel, psychologique, etc. Par exemple, même dans la mission de l'INIR, les adultes vulnérables, mais je dirais aussi rendus vulnérables par l'accompagnement spirituel, etc., ne sont pas pris en compte dans les indemnisations. Je ne sais pas si ça va changer dans l'avenir, mais c'est quand même un point extrêmement important. Il n'y a pas eu d'investigation à ce niveau-là. Et je pense que dans l'Église, c'est là où vraiment il y a aussi un très gros problème, je dirais, à investiguer.
Addiction.
Oui, c'était justement sur ce point-là que je voulais insister aussi. C'est vraiment très important de mesurer en fait l'ensemble des abus. Le rapport de la SIAZ était vraiment centré sur la pédocriminalité. Néanmoins, il a montré que les mécanismes qui étaient en œuvre, notamment l'emprise, la proximité familiale, amicale, etc., c'est aussi des choses qu'on va retrouver chez les adultes et qu'on retrouve dans de nombreuses communautés et aussi dans des paroisses ou dans différentes affaires d'abus. C'est vraiment important de réfléchir là-dessus et aussi de faire de la pédagogie, de l'expliquer. Quand les faits sur Michel Sentier sont sortis, on a pu entendre un certain nombre de réactions du type « puisque c'était des adultes, ils devaient forcément être un petit peu consentants ». Il y a vraiment encore des incompréhensions profondes sur le mécanisme de l'emprise. On a encore l'image d'un abus sexuel qui serait un inconnu qui vous agresse dans la rue. Or, on sait que dans les abus sexuels, et en particulier ceux qui ont lieu dans l'Église, c'est absolument pas ça le mécanisme. C'est une personne qui a d'abord une grande proximité, une proximité amicale, familiale, spirituelle. Et on le voit bien dans le cas de Michel Sentier, il a utilisé, instrumentalisé les sacrements et le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la confession, qui est celui où le croyant est le plus vulnérable, à des fins sexuelles. Et je pense que c'est aussi ça qui a été extrêmement violent à entendre pour le peuple de Dieu. Et ça pose aussi la question de l'après. C'est-à-dire qu'il y a les peines, qui sont... qui doivent être mesurés et à la hauteur des actes commis. On a évidemment, on est dans une religion chrétienne et donc on réfléchit aussi à la miséricorde et à l'après. Néanmoins, il faut quand même aussi prendre en compte ce que ça veut dire pour les fidèles de découvrir que en fait leur évêque a continué à célébrer l'Eucharistie plusieurs semaines, mois après qu'on ait pu découvrir ça. Et de même dans le cas de Jean-Pierre Ricard, voilà, dire que sachant ce qu'il avait fait et des faits encore d'une extrême gravité, quels que soient les faits en question, il s'agit d'une mineure de 14 ans, et donc contrairement à ce qu'on a pu entendre, et en particulier de la bouche même d'un évêque, non, ce ne sont pas des faits pas si graves que ça. On parle d'une mineure, c'est une agression sexuelle, c'est extrêmement grave. Et se rendre compte que, connaissant ces faits, cette histoire, Jean-Pierre Ricard a accepté d'être évêque, puis cardinal, donc c'est-à-dire électeur du pape et même potentiellement pape lui-même, d'être au dicastère pour la doctrine de la foi, c'est vraiment... c'est scandaleux et on peut pas le comprendre. Donc voilà.
On va accueillir Marie-Christine au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour. Donc moi je vous téléphone parce que je suis au Mans. Ma fille a été victime d'un viol familial il y a 22 ans. À l'époque où moi j'étais déjà soignante en milieu hospitalier, je recevais ces gens. Ce que je suis croyante, pratiquante depuis très longtemps. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qui se passe au niveau de l'Église, c'est un véritable cataclysme. Ce qui se passe au niveau d'une famille, quand on apprend ça, ou d'un milieu professionnel. Moi, je suis assez contente et confiante parce qu'on prend en compte la parole des enfants. Mais ce problème est très complexe. Je voudrais que la marche qu'on ait à faire après, c'est prendre aussi conscience de la problématique des prêtres qui continuent leur mission, de la problématique des chrétiens qui veulent toujours avoir confiance, et aussi la problématique des gens qui sont victimes de cette maladie de pulsion sexuelle, mais aussi avec des visions autoritaires et de la gestion de l'autorité. En tant que chrétien, je trouve que ça devrait être un peu plus facile que pour un citoyen lambda, parce que dans l'Évangile, Jésus a été confronté et nous explique ce que c'est. Donc la cataclysme et la stupeur, c'est bien. Pendant un premier temps, il nous rend complètement impossible, on est complètement... Mais après vient le stade de la réflexion, ce que tu es en train de faire tout le monde, le stade de l'action. Je pense qu'il faut faire confiance, parce qu'on doit faire confiance en tant que chrétien, et que tout le monde là, prend le problème à bras-le-corps. Il va y avoir encore des choses, parce que quand on commence à tirer la pelote de laine, ça devient long, et des tas de choses sont découvertes. Mmh. Mais il faut quand même, en tant que chrétien, je crois qu'on a cet atout en plus, qu'on doit faire confiance. La nature humaine, quelle que soit l'autorité qu'on a, elle est toujours reste, et elle reste importante. Mmh. C'est tout ce que je voulais dire.
Merci beaucoup Marie-Christine pour ce témoignage dans Je pense donc j'agis. Marie Jotil, des témoignages comme celui de Marie-Christine, on a entendu beaucoup sur RCF, notamment dans le cadre d'émissions spéciales après le rapport de la CIAS. Marie-Christine qui nous dit « je suis confiante » et elle pointe quand même cette problématique des prêtres qui continuent leur mission.
Alors, il faut faire la différence entre les prêtres qui ont abusé d'une manière ou d'une autre et les autres, parce que quand on dit qu'il y a 4, 5, 6%, parce que c'est pas très clair, le rapport de la CIAS a plutôt sous-évalué que surévalué, donc c'est extrêmement clair et ne parlait que des abus sur mineurs, donc de la pédocriminalité. Donc je crois qu'il faut essayer d'aller de l'avant et comprendre aussi que ça fait quand même 90-92% des prêtres, des évêques qui n'ont jamais abusé et qui sont des victimes collatérales dont il s'agit aussi de prendre soin. Donc ça, c'est extrêmement important. Marie-Christine nous rappelle aussi que même pour les prêtres qui ont commis des agressions, je crois qu'il y a un travail. Alors, j'ai été vraiment très reconnaissante à la conférence épiscopale l'année dernière de mettre en place des groupes de travail. Je pense que le travail, je veux dire, une chose est la prévention, les indemnisations, etc. C'est très important. Ok, mais c'est pas peut-être le plus important. Le plus important, c'est de remédier au dysfonctionnement systémique. Et pour cela, la CEF a mis en place des groupes de travail. Moi-même, je fais partie du groupe de travail 3, c'est-à-dire comment est-ce que on cherche à accompagner des clercs ou des religieux qui ont abusé. C'est pas rien, parce que nous sommes dans une église, ils ont abusé, ils ont commis des fautes, c'est grave, c'est même très grave, c'est scandaleux, mais je veux dire, ce n'est pas à nous de les juger au sens de la justice divine. Il y a la justice humaine, elle doit passer par là. Mais ensuite, il y a aussi cette miséricorde de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner? C'est d'autant plus important que si on ne le fait pas, eh bien, on va vers la récidive pure et simple. Et donc là, ça fait partie de nouveau de la prévention. Donc, Marie-Christine, elle a parfaitement raison quand elle souligne et la place du prendre soin des victimes directes, mais aussi des victimes potentielles, tous les fidèles, les prêtres qui n'ont jamais commis d'abus, les évêques qui essayent de se battre, et certains font vraiment un travail extraordinaire, mais aussi l'accompagnement des agresseurs.
Alix Huon, vous vouliez réagir?
Oui, je suis bien d'accord. Et il me semble que justement cette transparence responsable que vous citiez tout à l'heure est absolument essentielle pour qu'on puisse reconstruire cette confiance et à la fois accompagner évidemment les victimes, prévenir les victimes potentielles et également voir quel est l'après pour les abuseurs. C'est vraiment important qu'on puisse, nous, être en confiance avec l'Église et savoir que cet accompagnement est fait, qu'il est fait avec miséricorde, mais qu'il est fait aussi avec exigence et avec ce qu'il faut de transparence, pour qu'on soit certain, quand on confie ses enfants au catéchisme ou qu'on participe à telle ou telle célébration, que voilà, que tout a été fait pour pouvoir protéger l'ensemble du peuple de Dieu.
On va faire une petite pause rapide sur RCF dont Je pense donc j'agis. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour réagir. On accueillera Geneviève dans quelques minutes. Vous pouvez également nous laisser vos messages par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. À tout de suite. Vous accompagner sur RCF, son tout nouveau single Anti-héros sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Pauline de Torsiac.
Avec la théologienne Marie Jotil qui nous accompagne dans cette première partie d'émission. Alix Huon, vous êtes membre du collectif Agir pour notre Église. Et Monseigneur François Touvet, l'évêque de Châlons en Champagne.
Et Monseigneur Touvet, la semaine dernière, dans le cadre de cette assemblée plénière à Lourdes, vous avez voté des résolutions justement concernant la lutte contre ces abus. Vous avez notamment décidé d'un comité de suivi qui serait composé d'experts. Il va être créé pour accompagner, éclairer tout archevêque ou évêque qui a traité du cas d'un autre évêque pour des abus ou agressions sexuelles. Quel va être le rôle plus précisément de ce conseil? C'est une sorte d'intermédiaire entre l'Église de France, le Saint-Siège. Comment vous définiriez ce comité, ce conseil de suivi? Et on a un peu l'impression aussi qu'il va avoir beaucoup de missions finalement.
Je ne sais pas s'il aura beaucoup de missions. En tout cas, le souci porté par les évêques et exprimé avec beaucoup de détermination, c'est de ne pas laisser un évêque seul traiter une affaire qui émerge et qui lui serait signalée. Nous sommes organisés pour travailler ensemble à l'échelle de provinces ecclésiastiques et l'évêque qui coordonne le travail des différents évêques, on l'appelle l'archevêque métropolitain. Et donc, selon les termes du motu proprio du pape François en mai 2019, « Vos estis lux mundi », »,« Vous êtes la lumière du monde », il revient à l'archevêque métropolitain de signaler au Saint-Siège et des faits qui lui seraient révélés et sur lesquels il aurait déjà perçu une vraisemblance et donc de traiter cela en relation avec le dicaster compétent à Rome. Et donc il est vraiment apparu la nécessité de ne pas le faire dans l'entre-soi, ni même dans la solitude d'un évêque, d'un archevêque, mais ni dans l'entre-soi de quelques évêques, et donc de nous associer l'expertise de quelques personnes qui, au titre de la communication, au titre du droit, au titre de la psychologie, peut-être au titre même de personnes victimes, peuvent aider un archevêque à initier la procédure, à l'accompagner, à prendre la parole au bon moment, et ainsi à faire ce travail d'exigence, de vérité, de justice, tout en préservant aussi, bien sûr, la dignité de toute personne humaine, qu'elle soit même évêque et mise en cause, et puis aussi le respect pour le peuple de Dieu dans son ensemble. Voilà.
Marie Jotil, un mot de ce conseil, qu'est-ce que vous en pensez? Il a un rôle d'accompagnement, de conseil, il faut se référer à ce conseil pour le suivi de la manière de mener l'enquête, la publicité à donner ou non au fait dénoncer. On lui demande beaucoup de choses à ce conseil.
Oui, vous avez raison, mais je pense qu'en fait c'est une étape un peu provisoire par la force des choses, parce que il faudra d'abord le mettre en lien avec le tribunal pénal national qui va être également mis en place, qui a été acté la semaine dernière et qui devrait être mis en place début décembre. Bon, on va garder la deadline, mais il y a aussi le fait que les groupes de travail vont remettre leurs conclusions au mois de mars prochain. Or, dans ces groupes de travail, je pense que il y aura différentes propositions pour que l'évêque précisément ne soit pas seul. Donc, je reprends l'idée parce qu'elle est très importante de François Touvet, au sens où il faut séparer certains pouvoirs au niveau épiscopal, que l'évêque ne soit pas jugé parti par rapport à un prêtre, et donc qu'il y ait un conseil autour de lui, qu'il y ait un conseil plus large, que les gens soient formés. Etc., etc. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudra essayer d'harmoniser cet ensemble. Je dirais que c'est une première étape, ok, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment aller de l'avant de ce point de vue.
Alix Fion, je vais vous donner la parole dans un instant, mais Marie Jotil, vous allez nous quitter dans quelques minutes pour prendre un train. Oui. Donc, je voulais avoir votre avis quand même sur la dimension de la formation aussi des évêques, qui est un aspect des résolutions qui ont été prises à l'issue de cette assemblée. Formation juridique, canonique et pastorale concernant les bonnes pratiques à acquérir en cas de situation préoccupante ou de soupçon d'infraction. Ils ne sont pas formés, les évêques?
Moyennement, on va dire. Parce qu'ils ont une formation à Rome, et je crois que François Touvet pourra nous le dire, pour les baby bishops, ils ont une formation assez
baby rapide, bishop, c'est
donc
les
c'est
bébés
leur expression. Évêques, ouais. Les bébés évêques, donc ça ne veut pas dire qu'ils sont bébés, mais ça veut dire qu'ils sont juste nommés et qu'ils vont essayer de faire en 48 heures une formation à Rome. Vous pensez bien qu'avec ça, on n'est pas très aidé au niveau de l'Église. Et en particulier, si on ne sait pas ce que ça veut dire un abus, si on n'a jamais rencontré une victime, j'ai envie de dire, excusez-moi, mais on ne peut pas les accueillir correctement parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Je crois que le pape François a bien compris cette affaire-là. Donc, même, je veux dire, mais ça non plus, ça ne relève pas de Rome pour former des évêques. Je pense qu'au niveau de la conférence épiscopale ou simplement comme formation, parce qu'on a de plus en plus de formations universitaires qui vont dans ce sens, on peut apprendre un tas de choses. Et ces formations, elles valent pour tout le monde, à tous les niveaux. Tous ceux qui ont des responsabilités dans l'Église doivent être formés de façon minimale à la question des abus. Ils doivent s'informer, ils doivent comprendre aussi au niveau du droit canonique quelles sont les règles. Or, il s'avère, quand on met ensemble tout ce que l'on entend dans les différentes dans les différents diocèses, qu'au niveau canonique, c'est la non-formation est catastrophique. Et je ne pense pas que François Touvet me contredira. Mais les canonistes n'ont pratiquement pas de formation. Ils ont jusqu'à présent beaucoup traité du droit matrimonial, mais du coup, ils connaissent pratiquement rien au niveau du droit dans la question des abus. Je sais que, par exemple, à Lyon, Mgr Gobillard, qui va maintenant devenir évêque de Digne, a demandé de façon très volontariste à certains laïcs de se former au niveau du droit canon. Je crois que pour la conférence épiscopale, cette demande de formation volontariste basée sur le volontariat est extrêmement important, et ça vaut pour un tas de laïcs, parce que si les évêques veulent être entourés, il faut aussi qu'ils prennent en considération cette affaire-là.
Merci beaucoup Marie-Jotilde d'avoir été avec nous dans cette
Merci.
Émission.
Merci.
Je rappelle que vous êtes théologienne, médecin, professeur d'éthique à la faculté de théologie de Strasbourg. Vous partez à l'université de Fribourg qui va vous décerner un doctorat honoris causa pour l'ensemble de votre travail. Donc on vous laisse partir prendre votre train. Monseigneur Touvet, peut-être une réaction justement à cette question de la formation du droit canonique qui est d'ailleurs pas si clair que ça. On a eu un petit peu un sentiment de flottement la semaine dernière aussi quand Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort parlait des sanctions, de la manière dont finalement un clerc ou un évêque qui a été sanctionné peut continuer ou pas à célébrer la messe. C'est vrai que on sent qu'il y a quand même des zones un petit peu floues autour de cela.
Oui, alors d'abord, déjà sur la formation des évêques, bon, nous sommes quand même formés par tout notre cursus de formation pour le ministère presbytéral, mais il est vrai que le jour où on répond positivement, et je me souviens l'avoir fait avec beaucoup d'ardeur et de générosité, on répond à l'appel à l'épiscopat, c'est vrai qu'on manque de formation dans bien d'autres sujets. Et donc, c'est une formation continue à laquelle nous sommes appelés, parce que lorsqu'on veut exercer une mission de façon responsable, il faut se donner des exigences à soi-même aussi. Et donc, très concrètement, la semaine dernière, nous avons aussi décidé de transformer notre session doctrinale, qui était pour travailler un sujet de théologie, nous l'avons transformé et au mois de février, nous allons tous travailler des questions justement de droit pénal, l'articulation avec le droit canonique. Et donc, ce sera un complément de formation pour beaucoup, mais c'est vrai que le droit matrimonial a été très étudié, les tribunaux ecclésiastiques dans les provinces étudient et suivent beaucoup de et jugent beaucoup de dossiers de causes matrimoniales, mais très peu en droit pénal. Et donc, nous avons à progresser. Et je me réjouis que nous puissions justement compter sur l'expertise de beaucoup de fidèles dans l'Église, de chercheurs, d'universitaires, tous ceux qui vraiment ont déjà avancé eux-mêmes dans leurs réflexions pour que nous puissions bien prendre la mesure de tout cela. Les sanctions, elles sont données par l'autorité qui a compétence pour la donner. Alors on peut apprécier une sanction, comme c'est dans la justice étatique aussi, on peut l'apprécier de façon diverse, trouver qu'elle est trop indulgente, qu'elle est trop sévère. En tout cas, la sanction, elle doit être appliquée. Il faut qu'elle soit communiquée aux personnes victimes, c'est la moindre des choses, alors que ça n'était pas systématiquement le cas. Et puis, je pense qu'il faut que nous comprenions, et nous l'avons compris, je dois le dire, mais il faut trouver la forme, la façon de publier, aussi de permettre au peuple de Dieu, qui n'est pas composé de jeunes enfants irresponsables et incapables d'entendre même des choses difficiles, il faut que nous puissions le dire. Mais comment voilà tout ce travail. Je me réjouis du contexte aussi de cette émission, que l'on puisse dialoguer, parce que c'est ainsi que l'on pourra véritablement avancer. Avec le souci des personnes victimes.
Alixion, peut-être un mot de cette question de la formation et puis de ce conseil qui dont le but est d'éviter que les évêques soient juges et parties.
Alors je pense que ce conseil, c'est une bonne chose, et en particulier le fait que dans ce conseil, on fasse appel à plusieurs compétences, à plusieurs profils. Je me pose la question de pourquoi le limiter au cas entre les évêques, puisque les problématiques sont les mêmes pour des abus qui pourraient être commis par des prêtres. L'évêque reste d'une certaine façon jugé parti, puisque il est à la fois le supérieur, un peu le père spirituel, le manager, le juge, il peut être un peu multicasquette par rapport à un prêtre dans son diocèse. Et de toute façon, je crois que c'était courageux de la part de Monseigneur de Moulin-Beaufort, mais de reconnaître dans sa prise de parole la naïveté et l'incompétence sur ces questions, et en tout cas sur le fait de pouvoir maîtriser l'ensemble de la procédure des évêques. Et je pense que c'est important, et ça n'est pas se flageller que de le reconnaître. Personne n'est bon tout seul. On le voit bien dans la justice pénale ou dans l'ensemble des décisions importantes qui doivent être prises, on ne prend jamais une décision seule. Et donc c'est vraiment important de se reposer sur des parties prenantes compétentes qui ont un angle différent. Je pense que c'est une des forces du rapport de la CIAZ, c'est de s'être appuyé sur des compétences et sur des expertises de la société civile, de la société religieuse. Et c'est vraiment important que l'Église aussi puisse élargir cette réflexion, se reposer sur les compétences des laïcs, encourager les laïcs à se former sur le droit canon, sur la théologie, sur l'accompagnement des personnes victimes, sur l'accompagnement aussi de l'éducation, des mouvements de jeunes, et qu'on s'appuie aussi sur les sciences sociales et sur ce qui se fait bien dans la société civile.
Geneviève nous a rejoint. Désolée Geneviève, vous avez patienté de longues minutes, mais on vous écoute.
Bonjour Geneviève.
On vous écoute. Bonjour à vous.
Moi, je suis de la province du sud-est de la France.
Très bien.
C'est pas la première fois que j'appelle. J'ai souvent été coupée par Melchior, mais là, elle m'a dit qu'il y avait
que
2 minutes.
Ah bah non, attendez.
J'ai que 2 minutes.
Allez-y.
Et donc, moi, je suis une adulte. J'ai été victime dans le cadre de discernement vocationnel par une communauté charismatique la plus importante en France. Faut pas que je donne de nom. Alors, je donne la plus importante en France. On m'a dit, donnez pas de nom. La plus importante en France. Je lis Famille chrétienne. Et moi, j'étais pas été abusée par l'évêque en question. Il m'a accueilli quand je suis allée aux rencontres de cette communauté. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Allez-y Geneviève,
donc, cette
on vous écoute.
C'est pour les adultes en responsabilité qui m'ont détruit psychologiquement. J'ai compris le sens spirituel avec la pub de Tamar ce matin. La pub de l'histoire de Tamar. Et j'ai passé plusieurs années en... Ça date des années 95, en hôpital psychiatrique.
Geneviève, je veux pas vous couper la parole, mais il faut accélérer un peu parce qu'on arrive à...
Donc oui. J'ai été abusée par le prêtre qui est expert. L'évêque, il est émérite. Le nouveau, il vient d'arriver. Ils se couvrent tous. Je suis encore abusée par des prêtres qui sont plus jeunes que moi aujourd'hui. Plus jeunes que moi aujourd'hui. Ils jouent au petit chef. Et je m'en sors pas. Ils se couvrent tous.
Abusé spirituellement, vous dites, hein, psychologiquement, ouais. Marie.
Moi, j'ai pas perdu la foi, j'ai pas perdu l'espérance. Je me bats courageusement, mais je suis en train de perdre la charité. C'est dommage quand même. Dommage.
Merci beaucoup, Geneviève, de nous avoir appelé dans Je pense, donc j'agis. Monseigneur François Touvet, on entend dans ce témoignage une vraie forme de colère de la part de Geneviève. Hein.
Oui, bien sûr, je la remercie de l'exprimer avec simplicité. Je suis moi-même très sensible à ce qu'elle vient de dire. Depuis 4 mois, je suis administrateur d'une communauté, la communauté du Verbe de vie, que l'évêque Garand, le cardinal archevêque de Bruxelles, a décidé de dissoudre en juin 2023. Et donc, pendant 1 an, je suis l'administrateur, un peu le liquidateur, si je puis dire, chargé d'accompagner tous les membres de cette communauté vers la dissolution, avec le souci des personnes, bien sûr. Il y a beaucoup de questions administratives à régler. Mais je prends connaissance, dans le détail, de ce qui a été indiqué lors de la visite canonique l'année dernière, toutes sortes de dysfonctionnements, avec en particulier la confusion entre ce qu'on appelle le fort interne et le fort externe. C'est-à-dire que celui qui gouverne une communauté, même un diocèse, c'est pour ça que je suis pas le père spirituel de mes prêtres, enfin vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, jamais je ne les entendrai dans le sacrement de la confession. Mais celui qui gouverne, celui qui exerce la mission de guider ses frères et sœurs au nom du Seigneur, il le fait pas parce qu'il serait meilleur que les autres. Il le fait comme un service, mais il ne doit pas avoir accès à la conscience. Il ne doit pas pouvoir connaître les grandes questions que se posent l'un ou l'autre. Donc, nous devons bien veiller à tout cela. Et oui, il y a des situations d'emprise spirituelle, d'abus d'autorité, d'abus spirituel. Il faut savoir en parler. Et c'est important que ça a été exprimé par Geneviève il y a un instant. Et bien, il faut pouvoir aussi trouver une oreille attentive pour l'exprimer, le partager et
Alicia,
être accompagné.
Vous vouliez réagir?
Oui, je pense que c'est important aussi sur cette question de l'emprise spirituelle, des abus spirituels, de donner les clés aux fidèles eux-mêmes. Je pense qu'on sortira de cette crise des abus si on apporte une réponse systémique à un problème systémique. Que ces questions d'emprise spirituelle, elles sont pas évidentes à comprendre, elles sont pas c'est pas forcément évident. On voit beaucoup de confusion parfois entre ce qui relève d'un accompagnement psychologique, ce qui relève d'un accompagnement spirituel, et donc c'est aussi important d'avoir le courage aussi de responsabiliser les fidèles, de leur faire mieux comprendre et de savoir aussi faire détecter les signes d'alerte. C'est peut-être je pense qu'il faut qu'on renverse en fait notre façon de réfléchir à cette crise des abus, et que finalement ceux qui doivent être au premier plan et qui doivent le plus en parler et le plus faire des choses, ce sont justement les évêques et les prêtres au quotidien dans les paroisses. C'est évidemment une crise dont on a envie de sortir, dont on n'a pas envie de parler. J'entends très bien que les prêtres qui sont droits et qui subissent évidemment encore plus que les fidèles toutes les conséquences négatives de cette crise. Mais si le prêtre de la paroisse en qui on a confiance et qu'on voit tous les dimanches, voire plus, n'aborde jamais le sujet, ça envoie le message aux fidèles que finalement c'est pas vraiment un sujet, que c'est pas si grave que ça, qu'on s'en occupe, etc. Et je pense qu'il faut avoir le courage de mettre ce sujet au cœur et d'armer l'ensemble du peuple de Dieu pour que chacun puisse faire un petit peu à son échelle ce qui est possible. À problème systémique, il faut une réponse systémique et il faut vraiment que ces réponses soient proactives, et qu'encore une fois, on en parlait tout à l'heure sur le fait de pouvoir révéler des affaires, qu'on sorte un peu de cette infantilisation et qu'on puisse donner des armes et donner à chacun déjà des vraies preuves de proactivité et de sécurité et d'anticipation, mais aussi des moyens pour lutter à son échelle par la formation, par l'éducation et par ce qu'on met en place dans les différents mouvements.
Et cela, vous le disiez au début de l'émission, Alexion, cela passe par un tandem entre les laïcs, les fidèles et justement les prêtres, les évêques. C'est important, ça?
Bien sûr, je pense
trouver le bon modus operandi, mais...
Je pense qu'on a tous à y gagner. C'est ce que Marie-Jo Thiel disait tout à l'heure en parlant de l'égalité baptismale. Nous, on s'est vraiment pas constitué pour être une force d'opposition aux évêques ou à l'Église ou être autonome. On cherche à faire cette médiation, à faire ce pont. On a plusieurs membres d'Agir pour notre Église qui ont participé au groupe, qui participent au groupe de travail qui conseille les évêques. On a aussi un site internet sur lequel on a essayé de mettre en place autant de ressources possibles pour que l'ensemble des catholiques puissent se saisir du sujet, mieux comprendre. On a une foire aux questions qui explicite un petit peu les différentes questions qui ont pu se poser autour de ce rapport. Je pense que c'est important que dans chaque paroisse, on sorte un peu de cette phase de sidération et de colère et qu'on se dise maintenant qu'est-ce qu'on fait pour être proactif, comment est-ce qu'on montre qu'on met des choses en place et qu'on n'est pas seulement dans la réaction, mais qu'on met vraiment une prévention. Il faut que ça devienne aussi absurde de tenter un abus dans l'église que d'aller à l'aéroport avec une bombe dans son sac. Actuellement, c'est pas le cas et c'est toute cette culture sur laquelle il faut travailler.
On a une auditrice.
On va accueillir Marie avant de finir cette première partie. Bonjour Marie.
Bonjour.
On vous écoute. On vous entend. On vous entend.
Moi, je vous appelle parce que j'écoute l'émission depuis le début et je pense en effet, comme une des intervenantes l'a dit, qu'il y a un problème systémique. Et je vous remercie d'ailleurs pour la qualité des émissions que j'écoute très souvent. Pour clarifier les choses, je suis chrétienne, mais je suis protestante. Je fréquente l'église protestante depuis quelques années. J'ai été catholique et élevée dans un milieu très catholique. Je voulais juste signaler trois points brièvement. J'ai vécu dans une école de filles quand j'étais jeune, petite, je dirais, même quand j'étais au collège, et il y avait une ambiance très très moche, je ne sais pas trop comment la décrire, avec une religieuse qui d'ailleurs a été mutée sur la demande de la directrice de cette école à l'époque dans le diocèse où j'habite, et j'ai ressenti de manière très violente l'emprise psychologique. Je n'ai jamais été victime, je n'ai jamais eu de... Je ne peux pas témoigner d'abus patents sur le plan physique, mais je peux dire que c'était vraiment une ambiance absolument exécrable qui rendait la vie des adolescents très ennuyeuse. Et donc, dans ce qu'on entend sur les déclarations d'abus, on ne parle que des messieurs, mais je pense que chez les femmes, il y avait aussi cette possibilité. La deuxième...
Marie,
je voulais vous dire,
allez-y, rapidement.
Je vais très vite.
Très rapide.
Je pense que dans l'aspect systémique, il me semble aussi que, contrairement à l'Église protestante, où la hiérarchie n'existe pas de la même façon, la hiérarchie de l'Église catholique fait engendre ces difficultés à faire remonter les informations et à pouvoir dialoguer. Mmh. Et enfin, sur mon enfance, je peux redire que le tabou de la sexualité a été très lourd. Et je pense qu'il a pu avoir, et il est encore présent dans l'Église dans l'Église catholique, selon moi, dans l'Église protestante aussi, mais dans l'Église catholique, selon moi, et je pense que c'est un aspect
Merci
qui pourrait
beaucoup.
Être traité.
Merci beaucoup, Marie, pour votre témoignage. Et bien sûr, je vous coupe la parole, puisqu'on arrive à la toute fin de l'émission.
Monseigneur Touvet, une réaction rapide, et puis peut-être pour terminer, pour conclure, qu'est-ce qui peut permettre de, finalement, de recréer les conditions de la confiance dans l'Église, selon vous?
Mais je dirais tout simplement que c'est un dialogue comme celui que nous avons eu ce matin, et il faut que ça se fasse à grande échelle. Nous sommes tous l'Église. Il n'y a pas la hiérarchie, les évêques contre les autres, les autres contre les évêques. On est tous à bord de la même barque. Elle est bien secouée par la tempête. Hein. Je suis un ancien marin et je sais ce que ça veut dire. Mais nous sommes tous l'Église. Il n'y a qu'avec le dialogue, l'écoute, la formation en commun que nous pourrons aussi, que nous pourrons vraiment avancer et retrouver cette confiance. Parce que la confiance doit être réciproque, me semble-t-il. La confiance, c'est une relation, donc il faut que tout le monde essaye d'ouvrir son cœur à l'autre et de se laisser
Merci
convertir.
Beaucoup. Merci Monseigneur Touvet d'avoir participé à ce débat. Vous êtes l'évêque de Châlons-en-Champagne. Merci également à Alix Huon, membre du collectif Agir pour notre Église qui était en duplex depuis Paris. Vous étiez en duplex depuis Châlons-en-Champagne et Marie Jotil tout à l'heure en duplex de Strasbourg. Merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées ce matin.
C'est un quadruplex.
Quadruplex, oui.
Merci Pauline de Torchac. Dans un instant, on va parler de ces laïcs qui s'engagent en France à travers, vous allez l'entendre, hein, des tiers-lieux comme le café Le Dorothy par exemple. On en parle dans un instant avec vos appels au 04 72 38 20 23 tout de suite.